Aujourd'hui, donc, nous recevons Jean-Claude Serrero. Jean-Claude Serrero est né en 1942. Il est actuellement chargé de recherche au ministère de l'Environnement et également expert à la Cour d'appel de Paris. Parmi ses spécialités, il est spécialiste en holographie acoustique et il est spécialiste dans les recherches dans le domaine de l'acoustique et des vibrations. Il s'intéresse à promouvoir la qualité sonore de l'environnement urbain depuis plus de 10 ans. Il a fourni une très bonne bibliographie et je vous renvoie au site 2000enfrance.com pour la voir, parce qu'elle fait le point un petit peu sur toutes les recherches qui ont été menées sur ces questions. Enfin, avant de laisser M. Serrero prendre la parole, je voudrais, au nom de toute l'équipe de l'UTLS, le remercier d'avoir assuré cette conférence, parce que M. Serrero avait décidé de faire une conférence beaucoup plus fournie en documents et en animation. Mais cet après-midi, on lui a cambriolé dans sa voiture la plupart des documents qui devaient servir à cette conférence. Donc toute l'équipe de l'Université de Tous les Savoirs tient à le remercier d'assurer cette conférence avec les moyens du bord, si je puis dire, et dans de telles circonstances. Jean-Claude Serrero, je vous cède donc la parole pour une 50aine de minutes, après quoi un débat pourra suivre d'une 20aine de minutes. Je vous remercie.
D'abord, je voudrais remercier l'UTLS de m'avoir sollicité pour faire cette conférence sur le bruit. Et je voudrais aussi remercier, mais malheureusement pour eux, tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette conférence avec tous les transparents que je devais vous présenter. Bien. Alors, je vais donc aborder un sujet que tout le monde connaît. Au préalable, je vais vous faire écouter des bruits de la vie quotidienne. Bien, donc vous avez reconnu des bruits familiers. Alors comment va se dérouler cette présentation ? Je vais donc vous présenter le plan. Je sais pas, ça ne sort pas. Bon, ça ne sort pas. Malheureusement. Bien. Ben, écoutez, je vais vous l'annoncer. Donc je vais, dans un premier temps, je vais vous définir le bruit avec toutes ses caractéristiques. Dans un deuxième volet, on va évoquer l'aspect bruit et nuisance dénoncée, c'est-à-dire voir un peu comment les populations réagissent. Le troisième volet concernera le fonctionnement de l'oreille, c'est-à-dire notre capteur essentiel. Dans un dernier point, j'aborderai la réglementation et les perspectives de recherche. Alors, le bruit, de la définition. Définition, j'en prends une parmi d'autres. Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable et gênante. Si on s'arrête quelques minutes sur cette définition de l'AFNOR, et je dirais qu'il y en a d'autres définitions, il y en a à l'ISO, il y en a à l'OMS, mais si vous lisez bien cette définition, il y a deux aspects. D'une part, le phénomène physique, et d'autre part, tout ce qui est perceptif. Et donc, je vais évoquer avec vous ces deux points-là. Alors, comment définit-on un bruit ? Un bruit, c'est une combinaison de sons. Et donc, il faut définir qu'est-ce que le son. Le son est défini par des caractéristiques physiques et par des caractéristiques perceptives. Alors, je vais les aborder très rapidement. La première caractéristique intéressante, comme grandeur physique, c'est la fréquence, exprimée en Hertz. Et donc, c'est une grandeur mesurable. À cette grandeur mesurable est associée une grandeur sensitive ou physiologique qu'on appelle la hauteur. La hauteur, c'est la sensation que vous avez lorsque l'on passe des sons graves aux sons aigus en augmentant la fréquence. Donc, cette notion de hauteur, elle est très perceptible et vous l'avez perçue dans le cadre de la petite animation sonore. Il faut savoir également qu'au niveau de la fréquence, le domaine audible en fréquence va de 20 Hz à 20 000 Hz. C'est une moyenne. Évidemment, il y a des gens qui entendent en dessous du 20 Hz et d'autres qui entendent un petit peu au-dessus du 20 000 Hz. Au-dessus de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons que nous n'entendons pas, mais que certaines espèces animales perçoivent, notamment le chien qui entend jusqu'à 40 000 Hz. C'est pour ça que certains maîtres chiens éduquent les chiens par des sifflets à ultrasons. Et donc, c'est une perception que ont les chiens à très haute fréquence. Si je vais dans la gamme des basses fréquences, c'est-à-dire inférieures à 20 Hz, on tombe dans le domaine des infrasons. Et le domaine des infrasons est un domaine très étudié, mais qui présente certains effets sur la santé des personnes. Donc, bien retenir que les fréquences limites de notre domaine audible va de 20 Hz à 20 000 Hz. Sur ce graphique, vous voyez apparaître ce qu'on appelle le champ auditif de l'être humain, et notamment l'aire de la conversation, qui se situe de 80 Hz à 1400 Hz. On aurait pu faire figurer également sur ce diagramme le domaine de la musique. Alors, j'en dirai deux mots sur la musique. Il faut savoir qu'il y a deux types de signaux. Des signaux dits utiles, à savoir la musique, qui est une superposition de sons purs, bien ordonnés, la parole, qui est une complication par rapport au son, et puis vous avez tout ce qui concerne le bruit. Alors le bruit, si on veut avoir une définition très, très compacte, je dirais que c'est une combinaison de sons purs distribués d'une façon aléatoire et qui donne cette sensation sonore de bruit. Donc, au niveau des fréquences, il est important de souligner que c'est la richesse des harmoniques qui va donner la notion de timbre. Et les harmoniques sont, si vous voulez, tout ce qui a trait à un son fondamental et ses propres harmoniques. Eh bien, la grande difficulté à l'heure actuelle, c'est non pas d'analyser les harmoniques d'un son pur, mais de voir un peu comment on peut définir la hauteur d'un bruit. Pour l'instant, on ne sait pas bien définir la hauteur d'un bruit. Il y a des expériences de fait, mais c'est quelque chose de très complexe. Ça rentre plutôt dans le cadre, ce que j'évoquerai peut-être un peu plus loin, qui a trait à la qualité sonore. La qualité sonore, c'est une notion tout à fait récente qui, justement, étudie la hauteur des sons et notamment des hauteurs des bruits. Pour vous donner un exemple, la qualité sonore relève un petit peu de la discipline qui émerge actuellement, que l'on appelle le design sonore, c'est-à-dire le design sonore des produits. C'est de permettre à un fabricant de produits de jouer sur la réduction du bruit de son produit, mais également de, comment dirais-je, de donner une qualité sonore autre. Un des grands exemples actuels, ce sont les fabricants de voitures, les constructeurs automobiles, qui étudient l'acoustique à l'intérieur de l'habitacle, c'est-à-dire le confort acoustique, et donc utilisent essentiellement un outil que l'on appelle une tête artificielle, qui est une tête avec deux capteurs qui représentent nos deux oreilles. Et à partir de cette tête artificielle, ils étudient la perception de notre environnement dans un habitacle de couverture. Donc voilà un exemple de design sonore. On pourrait penser à d'autres produits que la voiture, mais sachez qu'également, cette qualité sonore, elle va intervenir dans d'autres domaines, et notamment tout ce que l'on appelle le paysage sonore urbain, c'est-à-dire d'améliorer l'environnement sonore urbain par des formes urbaines adéquates, par des matériaux adéquats, etc. Donc, retenir en ce qui concerne la fréquence, fréquence exprimée en hertz, grandeur physique, associée à une grandeur sensitive qu'on appelle la notion de hauteur. Le deuxième paramètre important et qui, dans la réglementation, se revoit assez souvent, la deuxième grandeur physique, c'est l'intensité acoustique ou la surpression acoustique. Donc, grandeur physique, notamment la pression acoustique, que l'on sait mesurer. Que l'on sait mesurer à l'aide d'un micro que vous voyez ici. Eh bien, à partir de cette mesure de pression acoustique, on peut définir le décibel. Et donc, il y a une formule que je vous indiquerai tout à l'heure. Donc, l'intensité est reliée à la pression acoustique. En fait, l'intensité acoustique varie comme le carré de la pression acoustique. Et on peut associer à cette grandeur physique qu'est l'intensité acoustique et la pression acoustique, on associe une notion d'une grandeur physiologique qui est la sonie. La sonie, c'est donc la grandeur physique, c'est la sensation sonore que vous avez lorsque on augmente l'intensité acoustique ou la pression acoustique du son. Et donc, c'est la notion de son faible et de son intense. Alors, je vous présente ici les courbes de Fletcher-Mutzen qui ont été établies dans les années 20, à peu près, 22, qui représentent des courbes d'égale sensation sonore. C'est-à-dire que si je prends une courbe et que je me déplace point par point sur cette courbe, j'ai une égale sensation sonore. Et donc on voit que pour chaque point de la courbe, qui est représenté par deux coordonnées, la fréquence et l'intensité, on voit que pour différents types de bruits correspondant à ces deux paramètres, eh bien, on a différents paramètres pour la même sensation sonore. Alors, vous voyez un réseau de courbes qui montre un petit peu l'ensemble de sensations sonores. Et ce diagramme a été établi à l'aide d'étudiants sains d'oreilles, jeunes, et dans des conditions expérimentales très précises, à savoir qu'on leur a fait écouter des sons purs, et puis également, ils étaient dans une chambre anéchoïque. Je vais voir si ça sort. Je ne sais pas si ça sort bien. Bon, pour vous expliquer très brièvement une chambre anéchoïque, c'est une chambre qui est composée de cônes en laine minérale, donc de l'absorbant. Et quand on se situe dans cette chambre anéchoïque, on a le champ, la représentation du champ libre, à savoir qu'on n'a pas d'écho, puisque tout est absorbé. Pour l'anecdote, si vous voulez, quand on enferme un chat dans une chambre anéchoïque pendant plus d'une nuit, à la sortie, le lendemain matin, il ne sait plus marcher du tout. Il a perdu le sens de l'équilibre. On verra tout à l'heure pourquoi. Eh bien, parce que dans le silence complet, il doit être atteint un petit peu par ses propres bruits. Il doit entendre ses propres bruits et ça doit perturber. Je dirais que pour l'être humain également, si on s'enferme dans une chambre anéchoïque, on entend ses propres bruits, le cœur, le sang circuler dans les oreilles. Donc c'est assez impressionnant. Bien, donc je voulais préciser que alors, les chambres anéchoïques ont été utilisées donc, pour établir les courbes de Fletcher-Mutzen d'égale sensation sonore. Et donc, à partir de ça, on a fait écouter donc des sons purs et en écoute binaurale, c'est-à-dire en écoute réelle. Il faut savoir que le seuil de sensibilité de l'oreille, par rapport justement à ces niveaux, si on écoute avec une seule oreille, le seuil d'audibilité augmente à peu près de 3 dB lorsque l'on écoute avec deux oreilles. Quelques remarques sur ce diagramme qui est très important puisque c'est la base un petit peu de ce qu'on appelle la psychoacoustique, puisque avec deux paramètres, l'intensité exprimée en décibels ou la fréquence, à partir de ces deux paramètres, on va voir que on peut exprimer toutes les sensations sonores. La courbe minimale représente ce qu'on appelle le seuil de l'audition. La courbe maximale représente le seuil de douleur. Donc on voit la dynamique de l'oreille entre, disons, 0 dB et 120 dB. Que dire encore sur ces courbes ? Ces courbes montrent la non-linéarité de l'oreille. Il suffit de les regarder, elles sont compliquées. Vous vous doutez bien que si on utilisait des bruits, ce serait encore plus complexe comme diagramme. Déjà avec les sons purs, c'est déjà pas simple. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'aux basses fréquences, toutes les courbes se rejoignent et donc la dynamique de l'oreille dans les basses fréquences est assez faible. En revanche, pour les fréquences élevées, la dynamique n'est pas du tout atteinte. Donc j'ai parlé de la fréquence, la notion de hauteur. J'ai parlé de l'intensité, la notion de force ou de sonie. Donc la sonie s'exprime en faune et il y a une relation simple qui lie saune et faune. Et j'en dirai pas plus parce que ce sont des unités un petit peu désuètes et donc j'en parlerai pas. La troisième caractéristique importante du bruit, c'est la durée. Évidemment, pour écouter un son, il faut qu'il ait une certaine durée. Cette durée, en principe, il faut qu'elle soit supérieure, bon, selon les individus, entre 25 millisecondes à 125 millisecondes. Cette durée, bon, se mesure et donc correspond une grandeur de sensation que l'on appelle la durée d'exposition. Les gens sont exposés à plusieurs heures, à un bruit, dans le monde du travail ou dans les moyens de transport, etc. Donc finalement, la durée est quelque chose de récent. Et donc on a trouvé des indices pour apprécier un peu cette exposition. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce paramètre, la durée, mais sachez que un des indices très utilisés dans la réglementation, c'est le niveau équivalent. Alors, malheureusement, j'avais un transparent sur la définition, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Le niveau équivalent, c'est la sommation de l'énergie acoustique pendant une durée d'observation. Quand j'aborderai la réglementation, on dit que, par exemple, pour les bruits routiers, il faut que le niveau équivalent de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures, voire 22 heures, eh bien, le niveau équivalent, c'est-à-dire tout le bruit dans cette tranche de temps, eh bien, ne doit pas dépasser un certain seuil que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà les trois grands paramètres, fréquence, intensité, durée. Je vous ai évoqué un quatrième paramètre qui rentre dans la qualité sonore, c'est donc la richesse en harmonique et qui donne la notion de timbre. Pour vous donner une idée des timbres, quand vous jouez une note de musique avec un violon, par exemple un La avec un violon ou un La avec un piano, donc la même fréquence, grandeur physique, vous avez des sensations totalement différentes. Donc, pour un violon, vous avez beaucoup d'harmoniques et une richesse donc, d'harmoniques, et donc ça donne un timbre très particulier. Je ne rentrerai pas dans l'acoustique musicale, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine est autre, c'est l'acoustique de l'environnement. Voilà, j'ai défini le bruit. Maintenant, le bruit au niveau de l'exposition des gens, l'exposition des populations, eh bien, c'est la notion de gêne ou nuisance. Alors là, il faut être un petit peu prudent. Il faut savoir que toutes les recherches concernant l'évaluation de la gêne n'ont pas abouti à des résultats tangibles. Néanmoins, on sait pertinemment que dans le cadre du travail, par exemple, donc les règles qui sont inscrites dans le Code du travail, on sait qu'une exposition journalière 8 heures de 8 heures ne doit pas dépasser un niveau équivalent de plus de 85 décibels. 85 décibels est considéré comme un des niveaux très intenses. Que dire d'autre sur la notion de gêne? Eh bien, il faut savoir qu'il y a très peu d'indicateurs de gêne, mais néanmoins, la recherche tente de trouver au moins quelques indicateurs pertinents pour justement évaluer cette gêne. Que dire d'autre sur les aspects de nuisance et ses effets sur la santé? Il faut savoir que des niveaux très intenses, au-delà de 85 décibels, donnent des effets sur la santé assez sévères, notamment l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires. Ce sont tous les effets extra-auditifs, indépendamment des surdités professionnelles ou des surdités tout court. Donc, je dirais qu'au niveau des niveaux intenses, on va savoir que finalement, la réglementation va s'occuper essentiellement de ces niveaux intenses. J'ai donc un petit peu survolé ce deuxième chapitre et je vais aborder l'aspect du fonctionnement de notre oreille. Là aussi, je vais être très rapide pour la raison simple, c'est que c'est assez complexe, mais néanmoins, je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, c'est mes transparents survivants. Donc, alors, si vous regardez notre oreille, notre système auditif, pardon, eh bien, vous avez trois parties. Il y en a même quatre, mais je ne l'aborderai pas. L'oreille externe qui est constituée du pavillon, du conduit auditif, et donc le pavillon a pour fonction de focaliser l'énergie acoustique qui arrive par le milieu aérien. Donc la propagation développe une énergie, donc une intensité acoustique, et cette intensité acoustique est focalisée par le pavillon et rentrée dans le conduit auditif externe et vient frapper le tympan, qui est ici. Tympan au diamètre à peu près 1 cm de diamètre, convexe d'un côté, concave de l'autre. Petite particularité, le pavillon, si vous mettez de la cire dans le pavillon, dans les circonvolutions du pavillon, eh bien, vous avez une atténuation très importante du bruit qui arrive dans l'oreille. Donc, le pavillon a son rôle à jouer, et notamment, par exemple, dans les espèces animales, le chat a la possibilité de les orienter, donc de focaliser d'autant mieux. Mais ceci, c'est uniquement pour le repérage dans l'espace, donc l'identification dans l'espace, que le chat oriente ses pavillons. En ce qui nous concerne, il faut tourner la tête pour avoir la notion. À moins que quelqu'un puisse faire bouger ses pavillons, c'est une autre... Pardon. Donc nous arrivons à l'oreille moyenne. Alors l'oreille moyenne est composée d'une cavité qui comporte la chaîne des osselets. Donc vous avez cette chaîne des osselets qui va transmettre l'énergie à l'oreille interne. La chaîne des osselets, deux petits mots sur la chaîne des osselets. La chaîne des osselets est retenue par des muscles. C'est deux rôles pour la chaîne des osselets. D'une part, la conduction et la transmission donc de l'énergie acoustique, et d'autre part, un rôle protecteur. Le réflexe stapédien de l'oreille permet de protéger l'oreille lorsqu'il y a des bruits très intenses et de courte durée. Alors évidemment, si vous avez un bruit de très courte durée, qui soit plus petite que celle de la durée que j'ai évoquée tout à l'heure, 125 millisecondes, effectivement, l'oreille n'est plus protégée et il y a destruction partielle de l'oreille interne. Pour l'anecdote, ce n'est pas une anecdote assez amusante, pendant la guerre de 14-18, les bruits étaient si intenses que certains artilleurs avaient, l'énergie qui était développée et par la durée des bruits, la chaîne des osselets était complètement démantelée et donc ils avaient une surdité assez importante. Mais ils entendaient quand même les bruits. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, transmission d'un milieu aérien à un milieu solidien. Et on va voir que maintenant, on va passer dans un milieu liquide. Donc, le passage de milieux différents, avec des impédances acoustiques différentes, bien vont conduire toute l'énergie acoustique vers l'oreille interne. Alors, l'oreille interne, elle est dessinée ici. Qu'est-ce que vous voyez? On voit apparaître, d'une part, la cochlée et, d'une part, l'appareil vestibulaire. Donc, l'oreille interne est composée de deux organes, la cochlée et l'appareil vestibulaire. Savoir si ces deux organes interagissent entre eux, ça rejoint un peu l'anecdote que je vous ai indiquée à propos du chat. On pense que le chat étant enfermé dans le silence, eh bien, le fait de perdre l'équilibre, ça joue un petit peu sur l'appareil vestibulaire. Bon, je passe sur le détail. Et donc, toujours mon transparent survivant. Ça, c'est l'oreille moyenne, très détaillée, avec le marteau, l'enclume et l'étrier. L'étrier qui s'appuie sur la fenêtre ovale. Et donc, ici, vous avez la fenêtre ronde. Et là, vous avez la trompe de Stache qui permet l'équilibre de pression de part et d'autre du tympan. Quand vous avez un rhume et que la trompe de Stache est obturée, automatiquement, cette cavité n'est plus à la pression atmosphérique. Et c'est pour ça que souvent, le tympan vous fait souffrir. Donc voilà, alors je ne vais pas m'étendre trop sur l'oreille moyenne et je vais donc aborder l'oreille interne. L'oreille interne, voici le schéma, la coupe d'une cochlée. Donc c'est le limaçon qui est l'organe essentiel de notre perception auditive. Et je vais détailler cette partie-là, à savoir l'organe de Corti. Très schématiquement, dans la cochlée, je reviens sur mon schéma de la cochlée. Sur la cochlée, vous voyez que vous avez l'organe de Corti. Il y a la membrane basilaire qui est l'organe le plus essentiel, je dirais, de la cochlée. Pourquoi ? Parce que c'est cette membrane qui permet la discrimination fréquentielle de notre ouïe. Et donc, cette membrane... Si je reviens sur le schéma suivant, quand vous aviez l'énergie qui rentre par l'oreille externe via l'oreille moyenne, l'action de l'étrier sur la fenêtre ovale va transmettre des vibrations dans le liquide contenu dans la cochlée, et cette cochlée, cette vibration va faire varier en amplitude la membrane basilaire, et cette membrane basilaire va ensuite, la membrane basilaire qui est ici, va ensuite, par l'effet de levier de la membrane pectorale, va faire bouger les cellules ciliées que vous voyez ici, cellules ciliées que l'on nomme externes si, par rapport à l'axe de la cochlée, internes de l'autre côté, de part et d'autre de l'organe de Corti. Cet organe de Corti, finalement, c'est l'essentiel. Pour quelle raison? Eh bien, on voit que tout ce qui était mécanique est transformé ensuite en énergie chimique au sein de la cellule et ensuite en influx nerveux à travers le nerf auditif qui va jusqu'au cortex. Le rôle des acousticiens s'arrête au fonctionnement de l'organe de Corti. Pour le reste, qui concerne tous les potentiels évoqués au niveau du cortex, et tous les messages qui sont transmis au cortex relèvent plus de la spécialité des neurophysiologistes. Mais l'acousticien s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc voilà le fonctionnement de l'oreille. Là, je vous ai expliqué le fonctionnement de l'oreille d'une oreille, mais il faut savoir que nous fonctionnons avec deux oreilles et que ça complique les choses. J'ai terminé sur le fonctionnement de l'oreille. Je vais parler maintenant de la réglementation et des perspectives de recherche. La réglementation, là aussi, j'avais apporté toute la réglementation. Ça a disparu. C'était un volume de 600 pages. C'est la revue, de toute façon, si vous voulez acheter, elle est au journal officiel, c'est le numéro 1383. Donc, vous aurez toute la réglementation. Mais je vais vous la résumer, si je peux. Arbitrairement, on découpe la réglementation, disons, en quatre domaines. Des domaines dans lesquels, finalement, on vit. D'une part, toute la réglementation qui a trait à l'urbanisme et à la construction, tout ce qui a trait aux sources mobiles, donc les avions, les trains, les autos, et aux sources fixes, tous les engins de chantier, donc il y a toute une réglementation. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet va traiter de tout ce qui concerne les bruits au travail, que ce soit à l'intérieur, et donc qui sont régis par le code du travail, et soit les bruits extérieurs, parce qu'il y a certaines usines et entreprises qui génèrent du bruit à l'extérieur, donc qui relèvent d'une réglementation qu'on appelle la réglementation des installations classées. Et puis, dans le quatrième volet de la réglementation, le quatrième volet traite un petit peu de tout ce qui a trait au comportement, donc les troubles de voisinage, tout ce qui a trait aussi aux effets sur la santé, évidemment. Donc, un petit peu les impacts, finalement, du bruit sur la santé. Donc, vous voyez, ce découpage, bon, il est un petit peu arbitraire. Et donc, je vais évoquer, sans transparent, je vais évoquer donc deux réglementations. D'une part, les logements, puisque chacun vit dans un logement. Et d'autre part, l'interface avec le logement, le bruit routier. Alors évidemment, j'aurais pu choisir les bruits d'avion ou les bruits d'autres sources. Mais je vais donc évoquer très rapidement ce qui concerne l'acoustique des logements. Très très brièvement, l'acoustique des logements date des années 55, juste après la guerre, où on avait émis des recommandations. Oh, c'était du style, il faut une isolation acoustique suffisante. Vous voyez que ce n'était pas très, très, très pertinent. Il a fallu attendre 1969, l'arrêté du 14 avril 1969, qui a fixé les règles et les seuils limites concernant l'acoustique des logements neufs. Et donc, cet arrêté est très important parce que c'était cet arrêté qui permettait de discriminer ce qu'on appelle les logements anciens, qui ne relèvent pas de la réglementation, et les logements neufs qui devaient répondre à l'arrêté de 69. Que dit cet arrêté? Grosso modo, il prend en charge trois types de bruits dans le logement, et vous allez tout de suite comprendre. D'une part, les bruits aériens, c'est-à-dire les bruits de votre voisin, la télévision, la chaîne IFI que vous entendez, donc tout ce qui concerne les bruits aériens. D'autre part, les bruits d'impact, les chaises, les pas, les chocs faits sur le plancher. Et le troisième volet de bruit, ce sont les bruits d'équipement, qu'ils soient individuels, la chasse d'eau, le robinet, ou collectifs, la chaufferie, le surpresseur collectif, l'ascenseur, etc. Bon, toutes sortes de bruits collectifs. Que disait à l'époque cette réglementation, donc qui date de 30 ans? Elle disait ceci, pour avoir un confort agréable dans les logements, pour les bruits aériens, il fallait que les murs isolent d'un isolement acoustique de l'ordre de 51 dB. Ça correspond en gros à un mur d'épaisseur de 20 cm, un parpaing-plein, 20 cm enduit de face. Ça vous donne à peu près cet isolement. Pour les bruits d'impact, on utilise une machine à choc qui est une machine normalisée au niveau européen et qui permet de simuler les pas sur un plancher. Si certains l'ont écouté, ça fait vraiment un tintamarre. Ça donne un niveau très élevé, mais en fait, on recueille plutôt le bruit en dessous, et c'est, ce seuil ne doit pas dépasser 70 décibels. Donc, meilleur est l'isolement au bruit d'impact, meilleur le seuil doit diminuer en dessous de 70. En ce qui concerne les équipements collectifs, le niveau requis dans une chambre qui jouxte un équipement collectif, ça doit être d'un niveau de 30 dBA. Pour ce qui concerne les bruits individuels, c'est 35 dBA. Il faut retenir dans tous ces chiffres que finalement, pour avoir un confort, disons, correct dans un logement, il faut que dans une pièce principale d'un logement, on ne dépasse pas plus de 30 décibels. Donc la réglementation a bien démarré en 69. Il est sorti le label confort acoustique en 72. Il y a eu la crise de l'énergie en 73. Et il a fallu attendre 1978 pour voir apparaître l'isolation vis-à-vis des bruits routiers, c'est-à-dire l'isolement de la façade des immeubles. Et donc, vous voyez que la réglementation était incomplète en 69. Donc, on a introduit des seuils limites concernant les fenêtres. Et puis, par ailleurs, on a encore amélioré la réglementation à la demande, je dirais, des fabricants et des promoteurs en disant... Il faut quand même baisser les seuils, on sait faire, on connaît les produits très performants. Et donc, l'administration, à partir de 1990, a établi, édicté une nouvelle réglementation acoustique des logements qui est sortie en 1994 et qui a été modifiée le 30 juin 1999 sous la pression de l'Europe. Il fallait répondre aux directives européennes. Et donc, la réglementation a été changée en 1999. Vous voyez le parcours entre 1969 et 1999, 30 ans pour améliorer progressivement l'acoustique des logements. Dire que c'est parfait, non, mais c'est un progrès néanmoins, compte tenu des matériaux assez performants sur le plan acoustique. Que dire d'autre sur le logement ? Eh bien, il faut savoir que finalement, l'Europe va imposer des nouveaux indicateurs, et il serait peut-être trop long d'en parler maintenant, mais sachez que quand même la qualité des logements est prise en charge aussi bien par la réglementation que par les fabricants de produits. En ce qui concerne le trafic routier, par définition, c'est un ensemble de sources. Il faut savoir déjà que tout ce qui a trait aux automobiles, aux deux roues, aux poids lourds, eh bien, c'est une réglementation européenne qui date de 1972. Et c'est cette directive européenne qui, tous les trois ans ou tous les deux ans, diminue le niveau sonore émis par les véhicules. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la mesure du niveau de bruit d'un véhicule. C'est une norme bien connue. Il faut savoir que pour le côté pratique, tout se fait à l'UTAC, à l'Union technique de l'automobile et du cycle, qui est chargée de définir le niveau sonore des véhicules. Mais ce qui est important, ce n'est pas un véhicule, c'est le trafic routier, c'est-à-dire l'ensemble, le débit, la circulation routière. Or, cette circulation routière, elle génère un niveau, en général, assez élevé, un niveau équivalent, proche de 65 décibels A, voire au-delà. Eh bien, il faut savoir que, en ce qui concerne les points noirs bruit, il faut savoir que, grosso modo, il y a près de 7 millions d'habitants qui sont exposés à des bruits supérieurs à 65 décibels. Donc, ça fait quand même une population importante. Les points noirs, il faut savoir ce que c'est. Le point noir, c'est une zone urbaine délimitée qui n'est pas le centre de l'agglomération, mais la périurbain. Donc, le recensement des points noirs a eu lieu et il s'agit maintenant d'insonoriser tous les logements correspondants. Alors, c'est un plan de long terme qui est très coûteux. Donc, voilà, je peux vous donner un autre exemple. 2600 points qui sont supérieurs à 70. Vous voyez, 10 milliards de francs. Que dire d'autre sur le trafic routier ? Eh bien, il faut savoir quand même que c'est la principale source de gênes et de nuisances. En second lieu, il y a les troubles de voisinage. Donc, il faut que l'État cherche à réglementer cette source. Alors, deux textes fondamentaux, si je puis dire. D'une part, le fait que l'État construit des nouvelles routes par rapport à des bâtiments existants. Eh bien, l'État doit construire une autoroute ou une voie urbaine qui ne génère pas plus de 60 décibels A de jour et 55 la nuit. Donc, actuellement, cette réglementation est en cours et à chaque fois qu'il y a une voie nouvelle construite, eh bien, l'État prend les mesures nécessaires, alors soit des écrans acoustiques, soit une topographie de l'autoroute adéquate. Par des mesures très simples, on arrive à résoudre ce problème. Le problème qui se pose, c'est la voie existe et les constructions nouvelles viennent en limite de cette voie nouvelle. Alors là, évidemment, la réglementation des logements neufs doit s'appliquer puisque c'est le promoteur qui doit assurer l'isolement requis vis-à-vis de cette source existante. Je continue mon dernier chapitre qui a trait aux perspectives de recherche. Alors, les perspectives de recherche, il y a plusieurs thèmes de recherche intéressants qui peuvent améliorer, disons, notre appréhension de l'environnement sonore urbain. Le premier axe de recherche qui a été pris en charge par un programme interministériel qui est le programme PREDIT, c'est le thème de la multi-exposition, multi-nuisance. Il s'agit de savoir comment on réagit par rapport à une exposition qui peut être le bruit d'une autoroute et d'un train, et de voir un petit peu quels indicateurs choisir. D'autre part, multi-nuisance, on peut étudier, par exemple, la vision et le bruit, l'odorat et le bruit, et de voir quels sont les types de réactions. Donc ça, c'est un début de recherche intéressant qui n'a pas encore abouti sur des expériences très concrètes, mais c'est un axe de recherche important. J'ai évoqué la qualité sonore. La qualité sonore est un thème très porteur. Il y a un enjeu commercial évident, mais actuellement, il est pris en charge que par les constructeurs automobiles parce que le confort acoustique des automobiles est intéressant pour les constructeurs. Mais en revanche, il faut savoir qu'il y a des équipes de recherche qui tentent d'améliorer la qualité sonore des villes. Et c'est ce qui concerne l'ensemble du paysage sonore urbain. C'est-à-dire on modélise un petit peu les espaces urbains et de façon à améliorer, je dirais, l'acoustique urbaine. Alors ça peut jouer sur les formes urbaines, donc les architectes travaillent, sur les matériaux utilisés, sur la disposition des immeubles, des îlots, des bâtiments. Et donc là, il y a des recherches très intéressantes qui sont nécessaires parce qu'il faut savoir que la réglementation a toujours tendance à quantifier, à trouver des seuils quantifiés pour les différentes sources. Mais en fait, il faut tenir compte également de la qualité sonore qui est quand même assez importante dans le cadre de la perception du bruit. Autre axe de recherche, le contrôle actif. Le contrôle actif est une technique récente qui permet de contrecarrer un bruit par un autre bruit. Alors, j'avais une belle photo de prototype sur le bruit des avions. Je vous aurais montré un prototype qui s'appelle à l'heure d'aujourd'hui, le lampadaire anti-bruit, qui est un système de haut-parleurs qui contrecarre le bruit d'avion et qui crée une zone de silence sous le lampadaire. On a des gains de l'ordre de 12 à 14 dB, ce qui n'est pas négligeable. Et l'usage futur ce serait de l'utiliser pour les riverains d'aérodromes qui ne peuvent pas utiliser leur jardin l'été. Donc, c'est un enjeu. Le prototype est actuellement testé et donc, on verra s'il sera commercialisé dans le futur. Autre thème important, les effets du bruit sur la santé. Il est malheureux de le dire, c'est que la recherche en France ne développe pas assez de recherche sur les effets sur la santé. Je dirais qu'il existe des équipes, mais les thèmes sont très très nombreux et on peut se disperser dans la recherche. Que dire d'autre sur les axes de recherche? Je pense que dans le cadre des programmes de recherche lancés par les pouvoirs publics, on traite à peu près l'ensemble des sources. Et de toute façon, il reste beaucoup de travail à réaliser au niveau de la réduction du bruit des sources. C'est un thème récurrent depuis de nombreuses années, mais la réduction ne suffit pas. Il faut tenir compte également de la qualité sonore. En conclusion, je dirais qu'il faut que absolument la réglementation soit étayée par des résultats de recherche, donc il faut absolument développer les études et la recherche, ne serait-ce que pour définir tel ou tel seuil tolérable ou pas tolérable, et puis par ailleurs, tenir compte surtout de la qualité sonore. Alors évidemment, certains me diront que je suis un peu utopique, mais je crois que c'est là que l'effort de recherche doit se porter pour qu'on puisse à la fois quantifier et qualifier un bruit. Alors, le rôle un petit peu de l'État, puisque je suis dans une administration, eh bien, c'est à la fois de préserver notre environnement sonore pour qu'il soit de qualité et pour qu'il soit, je dirais, bien perçu par l'ensemble des Français. Et je dirais donc que le rôle de l'État est important sur le plan réglementaire, mais qu'il faut absolument, absolument que la qualité sonore soit requise. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute.
En tant qu'ancien spécialiste de l'électroacoustique, je tiens d'abord à remercier le conférencier pour son exposé très complet, très clair. Mais il y a un point sur lequel, malheureusement, il a été plus que discret et qui est un point qui me paraît d'une certaine importance. On définit le niveau de bruit maximal autorisé dans le cadre du travail, et c'est théoriquement l'inspection du travail qui est censée le vérifier. Mais il existe actuellement un système de bain sonore où les jeunes vont s'immerger, qui est celui des boîtes de nuit et autres lieux dits de plaisir nocturne, dans lequel actuellement, selon différentes sources que j'ai pu entendre, c'est-à-dire les producteurs de son eux-mêmes, on fonctionne de plus en plus fort en décibels, les boîtes de nuit actuelles étant entre 106 et 110 décibels, mesurées par décibelmètre par les gens qui tiennent le pupitre. Je pense qu'il faudrait deux choses. D'une part, avertir les jeunes qui s'y exposent de l'extrême gravité du risque qu'ils prennent, et d'autre part, que la réglementation y mette son nez pour empêcher cette folie. Ça, je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'en pense notre conférencier qui est en même temps expert.
Je vais vous répondre. Les pouvoirs publics ont été conscients de ce problème des discothèques, ne serait-ce que pour la santé publique de notre jeunesse. Mais les discothèques, moi j'ai déjà mesuré en tant qu'expert judiciaire des discothèques dans Paris. Je ne dirai pas le nom des discothèques, mais il y a un constat, c'est vrai que le niveau sonore est extrêmement intense. J'ai mesuré en valeur crête près de 114 décibels. Donc vous voyez bien au-delà de ce que vous dites. Donc c'est vrai que c'est un niveau presque inacceptable. Mais ce qu'il faut savoir, et là ça c'est mon expérience d'expert, c'est que quand les gens se plaignent donc de ce bruit qui est largement perçu dans les logements qui sont contigus à la discothèque, Eh bien, c'est... Comment dirais-je ? La grande difficulté que l'on a, c'est d'apprécier un petit peu la plainte. Pour quelle raison ? Parce que des fois, on mesure chez le plaignant des niveaux qui sont en deçà de la réglementation. Donc, on a du mal à résoudre. On peut se dire, tiens, la plainte n'est pas fondée, etc. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on interroge les plaignants, eh bien, ils vous disent, monsieur l'expert, au lieu de venir à minuit, une heure, venez vers 4 heures du matin ou 5 heures du matin. Et c'est vrai que c'est à cette période-là qu'on a le niveau sonore le plus élevé. Il y a un pic. Et souvent, je me suis posé la question pourquoi il y avait ce pic sonore très tardif, non pas pour léser obligatoirement les voisins, les riverains, mais en fait, c'est parce que les consommations augmentent. C'est-à-dire que toute la durée de la soirée, les gens se dépensent, sont assourdis par le bruit intense, et puis, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont soif, ils consomment, ils consomment. Et donc, on arrive à faire consommer plus les jeunes en montant progressivement le niveau sonore. Et c'est très significatif, c'est que lorsque l'on fait donc une mesure sur toute la durée de la nuit, eh bien, on voit cette évolution progressive. Alors, est-ce que c'est proportionnel au chiffre d'affaires ? J'en sais rien. Mais toujours est-il que ça se constate. Par ailleurs... Pardon ?
Ça devrait être proportionnel au montant de l'amende.
Aussi, aussi, aussi. Exactement. Exactement. Alors, maintenant, il faut penser au fait que la dose de bruit reçue par les utilisateurs des discothèques, s'ils restent un certain temps à des niveaux aussi intenses, ils peuvent avoir une surdité partielle. Et très souvent, ils ont une fatigue auditive. Alors, je n'ai pas évoqué la fatigue auditive parce que je n'ai pas eu le temps, mais ils ont très souvent une fatigue auditive. Et on peut se poser la question si cette fatigue auditive ne joue pas avec l'alcool consommé sur le taux d'accident à la sortie des discothèques. On n'en sait rien pour l'instant. Il y a des enquêtes en cours et qui seraient peut-être intéressantes d'avoir comme résultat. Mais moi, je pense aussi au travailleur qui est le disque jockey, celui qui est là tous les soirs, qui tout le temps, il est dans une ambiance voisine de sang. Très souvent, les disques jockeys ont des surdités professionnelles assez importantes. Donc, alors, il existe une réglementation depuis 1998 sur les discothèques où le niveau sonore est limité à 100. Ah, alors, attendez. Entre une réglementation qui existe et son application, il peut y avoir un monde. Ça, je suis entièrement de votre avis. Je suis bien placé pour le savoir. Bon, mais je veux dire, il fallait quand même sortir un texte. Qu'il ne soit pas appliqué, bon, le temps le dira, parce que vous savez, une réglementation se met en place progressivement. Alors qu'elle n'a que 2 ans d'âge, il faut voir à la longue comment elle va être appliquée. Mais je crois savoir qu'il y a eu de nombreuses amendes depuis que ce texte est sorti.
Une question, madame, levez-vous, s'il vous plaît.
Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire, lorsqu'il y a un concours interne au ministère de l'Équipement et au ministère...
Parlez dans le micro.
Au niveau du ministère de l'Équipement et du ministère de la Culture, il y a des concours pour les architectes urbanistes de l'État. Et on leur fait faire une épreuve très longue, de plusieurs heures, où il faut des plans. Est-ce que dans leur... figuration, on tient compte des problèmes sonores. Et d'autre part, je voulais vous demander si vous pourriez nous expliquer le bruit dans les piscines.
Bon, je vais répondre à votre première question. Je ne suis pas du ministère de l'Équipement ni de la Culture, je suis du ministère de l'Environnement, mais je peux vous répondre. Dans les écoles d'architecture de la région parisienne, vous avez toujours un professeur d'acoustique qui enseigne aux futurs architectes l'acoustique dite architecturale. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste essentiellement sur les formes du bâtiment, mais également sur l'acoustique des salles, des théâtres, des opéras, etc. Donc, l'acoustique des grands volumes, exemple cet amphithéâtre. Ça s'étudie
au point de vue acoustique. Eh bien, donc, dans les écoles d'architecture, vous avez toujours un professeur qui enseigne l'acoustique. Donc ça, je réponds à votre première question. Maintenant, la deuxième question sur les piscines. Sur le bruit des piscines, effectivement, c'est un bruit assez particulier, dans la mesure où vous avez souvent dans les piscines, pour des questions d'hygiène, de nettoyage, etc., des surfaces très réfléchissantes. Par exemple, vous deviez connaître certainement l'opération des 1000 piscines tournesol, qui ont une forme comme un oursin. Eh bien, au point de vue acoustique, c'est une catastrophe. Pour quelle raison ? Ben déjà, la forme circulaire qui focalise le bruit sur les utilisateurs. Et puis, par ailleurs, tous les matériaux réfléchissants utilisés font que c'est extrêmement sonore et donc assez perturbant. Donc, l'acoustique des piscines, c'est quand même un métier. Donc, il y a des architectes qui pensent à mettre des matériaux absorbants, etc. Mais c'est vrai que c'est des niveaux sonores très, très élevés, compte tenu de toutes les réflexions.
Alors, avant de passer rapidement, j'ai une question qui vient du planétarium de Bretagne, donc je vais la faire passer, j'en ai plusieurs, j'en ferai passer deux. Donc, vous avez, à propos des infrasons, vous avez dit qu'ils n'étaient pas perceptibles, mais vous avez dit qu'ils étaient nuisibles pour la santé. Pouvez-vous préciser ?
Bon, j'ai dit que, en fait, c'est vrai que les ultrasons... Pour vous donner un exemple, c'est vrai que les infrasons, c'est quelque chose qui peut être perceptible. Comment on peut générer des infrasons ? Eh bien, c'est quand vous roulez, par exemple, à 140 km/h, vous dépassez la limite, et que vous laissez ouvert les deux vitres, il se crée un battement qui génère des infrasons. Et certaines personnes sont gênées par ces infrasons, qui n'entendent pas, mais qui donnent le mal des transports. Alors, les infrasons sont, disons, je dis, il y a des effets sur l'être humain quand ils sont très, très intenses. Par exemple, le fait que, par exemple, une grenade explose devant vous, il y a une onde de choc, ça génère des infrasons, c'est perturbant. Voilà, bon, les effets sur l'être humain. Oh, il existait dans le passé. Ce qu'il faut savoir sur les infrasons, c'est que comme ils sont très basse fréquence, ça veut dire très grande longueur d'onde, veut dire qu'ils se propagent à très très longue distance. Ils sont très peu absorbés. Un des exemples d'infrasons célèbres, c'est l'éruption du Krakatoa en 1886, où le son s'est propagé à plus de 6000 km, sans s'atténuer, pour ainsi dire. Bon, cela est dû aux infrasons générés par l'éruption volcanique, et puis par ailleurs par les couches de l'atmosphère qui focalisent un petit peu les sons, et donc propagation très longue. Donc les infrasons, très grande longueur d'onde. Qui dit grande longueur d'onde par rapport à la taille humaine, on voit bien que ces infrasons n'ont pas de prise, si vous voulez, au point de vue dimensionnel. Bon. Mais les infrasons, il existait dans le passé un canon à infrasons pour tuer des êtres humains, mais qui devait générer des intensités très fortes. Mais le grand inconvénient, comme c'est très peu directif, celui qui l'utilisait était lésé aussi.
Une question là, allez-y monsieur. Oui, levez-vous.
Et, bonjour monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la surdité des musiciens d'orchestre ? Est-ce qu'il existe une documentation là-dessus ? Est-ce que par exemple l'ORTF a quelque chose ? Et des études un peu médicales là-dessus ?
Alors, pardon.
J'aurais une deuxième question un petit peu plus banale. Les fautes professionnelles que peuvent commettre des architectes qui travaillent d'une manière artisanale, c'est leur métier d'ailleurs, qui souvent n'ont pas la connaissance, ne font pas d'études approfondies et mettent des sortes de gouttières pour soi-disant faire des déflecteurs pour que l'eau aille plus loin que le sol, n'est-ce pas, que le bas du bâtiment ou alors l'étage inférieur. Et alors, ça fait des cliquetis permanents quand il pleut. Quand il pleut la nuit, c'est un vrai concert. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ?
Votre question me déroute un petit peu, mais bon. Je vais essayer de répondre sur la première question. Dans le monde professionnel, effectivement, il y a des règles ne serait-ce que les règles du code du travail. Donc les niveaux sonores sont limités, comme je vous l'ai dit, en niveau équivalent, 8 heures pendant la journée, ça ne doit pas dépasser 85 décibels. C'est vrai que les instruments de musique génèrent des niveaux élevés. Des niveaux élevés, mais avec quand même, comment dirais-je, un musicien, comme il adore la musique, il s'accoutume assez bien. Mais il faut reconnaître que j'ai cru lire une fois un contrat de travail avec l'orchestre de Paris, où le musicien, s'il se sentait lésé ou avoir une surdité, ne devait pas se plaindre. Et je crois qu'il y avait une clause qui était un petit peu sévère, c'est-à-dire que certains musiciens, à force d'être exposés, je ne dis pas un bruit, c'est de la musique, mais la musique des uns, c'est le bruit des autres. Et donc, en ce qui concerne un orchestre, je crois qu'il y a très peu de plaintes des musiciens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une accoutumance qui se fait quand on est très actif sur un sujet donné. Et donc, l'oreille s'adapte. Mais en revanche, pour le voisin qui entend jouer toute la nuit, effectivement, là, ça pose des problèmes. Mais c'est des problèmes qui se résolvent très facilement par l'amélioration de l'isolement du mur mitoyen. Alors, pour répondre à la deuxième question que j'ai oubliée, excusez-moi, c'était sur la gouttière qui fait du bruit.
Les impacts de l'eau qui...
Alors, oui. Évidemment, on ne peut pas réglementer tous les bruits. Personnellement, je ne suis pas pour la réglementation systématique, sinon on finirait par avoir énormément de textes réglementaires sur toutes les sources de bruit. Quand on sait que plus de 70% des produits nouveaux sont à découvrir, regardez déjà le comportement des gens par rapport au portable. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de portable. Maintenant, vous avez, je ne dis pas une pollution sonore sur les portables, mais vous avez des comportements qui changent. Et c'est assez amusant de voir les gens dans la rue avec leur portable. Ça ne se voyait pas, c'est un paysage nouveau. C'est un paysage nouveau. Alors, pour répondre à votre bruit de gouttière, évidemment, c'est un bruit d'impact. Certes, c'est un bruit d'impact, mais de très faible niveau qui est difficilement réglementable.
Une question là-bas.
Bonsoir, monsieur. Je voudrais faire une remarque et une question, et poser une question. D'abord, la remarque, c'est par rapport aux effets. Effectivement, écouter du Beatles ou de la musique classique avec une bouteille de champagne, ça n'a pas du tout le même effet qu'écouter du rap avec du champagne. C'est plus ou moins pétillant, comme on dit. Ma question du coup en découle, c'est est-ce que vous pouvez me définir une relation potentielle entre le hertz et le décibel? Il doit y avoir une relation entre le hertz et le décibel.
Le S, vous appelez quoi?
Le hertz.
Ah, le hertz. Ouais.
J'ai mal prononcé.
J'avais mal compris, pardon, excusez-moi. Alors, une relation, bien sûr, c'est les fameuses courbes de Fletcher-Munson que je vous ai montrées tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ces courbes vous donnent les deux paramètres, la fréquence et puis l'intensité. Et quand vous jouez sur ces deux paramètres, donc les hertz et puis les décibels, eh bien, vous avez ces fameuses courbes d'égale sensation sonore. Donc on voit bien que suivant le type de bruit, qui a des fréquences, une fréquence donnée et une intensité donnée, peut correspondre à un autre bruit. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces caractéristiques jouent beaucoup dans la sensation sonore. Mais de là à dire qu'on peut avoir une relation simple entre fréquence et décibels, on le fait dans le cadre de l'acoustique musicale. C'est la définition de la hauteur. Et bon, je ne suis pas rentré trop dans les détails, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'acoustique musicale, mais il faut savoir qu'il existe des relations entre hauteur et fréquence.
Avant de donner la parole à la dame, je voudrais d'abord dire une question qui nous vient encore du planétarium de Bretagne qui s'est associé. Donc vous avez dit que les soldats de la guerre 14-18 entendaient encore malgré les traumatismes subis à l'oreille moyenne. Pouvez-vous développer ?
Alors, je pourrais développer pour quelle raison ? Eh bien, si je reviens à mon oreille moyenne, vous avez la chaîne des osselets, et puis vous avez remarqué, je ne vais pas trop détailler.
L'écran arrive.
C'est la base ?
C'est bon.
Voilà, c'est bon. Donc, si vous regardez le schéma, vous avez la fenêtre ovale sur laquelle s'appuie l'étrier, et puis vous avez la fenêtre ronde. Et puis tout ce qu'il y a derrière, c'est l'oreille interne, c'est la cochlée. Alors j'ai dit que quand, pendant la guerre de 14-18, il y avait une explosion, la chaîne des osselets pouvait se démettre. Il y a des gens qui ont une chaîne d'osselets artificielle, ça, en chirurgie de l'oreille, ça se fait. Bon, donc la chaîne des osselets complètement démantelée, et donc finalement la fenêtre ovale libérée, si je puis dire. Donc fenêtre ovale libérée, fenêtre ronde libérée. Eh bien, si l'énergie acoustique se transmet dans l'oreille moyenne, elle vient frapper les deux fenêtres, grosso modo, puisqu'il n'y a plus la transmission solidienne par la chaîne, elle n'existe plus. Eh bien, du fait de la dissymétrie entre les deux fenêtres, ça permet d'avoir une petite vibration perceptible. Et c'est parce que vous avez cette dissymétrie que les gens entendent. Il n'y aurait pas cette dissymétrie, il n'y aurait pas de possibilité. Voilà l'explication.
Une dernière question, madame.
Pour améliorer l'isolation phonique dans le cas d'un mur mitoyen, y a-t-il des matériaux particulièrement performants en dehors des laines minérales, etc. Pouvez-vous m'indiquer une documentation sur ce sujet, s'il vous plaît ?
Bon, je ne veux pas citer de marque, hein. J'en connais plusieurs, mais bon. Si vous voulez. Le renforcement d'un mur, au point de vue isolation acoustique, le seul domaine applicable, c'est d'augmenter la masse surfacique. C'est plus vous augmentez la masse, mieux vous êtes isolé. Néanmoins, augmenter la masse, on ne va pas remettre du béton pour augmenter la masse. Ce n'est pas facile pour faire un rattrapage acoustique. En revanche, il existe des cloisons de doublage, et vous avez évoqué le parement de plâtre plus la laine minérale. C'est un très bon matériau pour renforcer l'isolement acoustique. Maintenant, le grand problème, et quand on est expert acousticien, on fait ça couramment, le grand problème, quand il y a un litige entre particuliers, ou quand il y a même une transaction amiable, ça peut arriver, eh bien, c'est où doit-on faire le positionnement de la cloison ? Parce que chacun ne veut pas avoir une diminution de sa surface habitable. Et donc, c'est un dilemme pour l'expert. Alors, lui, l'expert, il pourra toujours définir le matériau, mais alors après, sur le plan juridique, ça pose d'autres problèmes. Mais, moi, souvent, je conseille l'isolation des deux côtés, comme ça, tout le monde est content.
Jean-Claude Serrero, merci.